Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Pour cet épisode de Spiritualista, mon invitée est Céline D'Artagnan, auteure du livre On voit mieux dans le noir, dans lequel elle explique comment elle a découvert, comment elle s'est connectée à ses dons de chamane. Céline, merci d'être là.
Ben merci à toi, Amel.
Je suis ravie de t'accueillir. Cette nouvelle saison de Spiritualista est axée autour de la création, de l'intuition, de l'inspiration. Finalement, c'est se connecter à l'invisible. Est-ce que, d'après toi, Céline, être artiste, être créateur, c'est quelque part être chamane ?
C'est quelque part être connecté à l'invisible, oui, mais selon en tout cas la définition du chamanisme en Mongolie, on ne peut pas tous être chamane, on doit être appelé et choisi par les esprits. En revanche, il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui travaillent avec le monde invisible. Il y avait une double page de la journaliste Rosita dans Le Monde qui traitait de ce sujet au travers de la danse, les danses rituelles, etc. Et c'est beaucoup repris aujourd'hui dans les danses contemporaines et dans les spectacles qu'on voit un peu partout en France.
Comment un esprit t'appelle ? Comment tu sais qu'un esprit t'appelle ?
Alors, ça martèle. Les esprits sont... Lorsque je sais qu'ils m'appellent, ça martèle parce qu'ils vont répéter plusieurs fois leur nom. Je sais tant que je comprenne qu'en fait, on vient toquer à la porte. Parce que dire son nom une fois, bon, c'est évanescent, puis on oublie, et puis il y a le quotidien, on fait plein de choses. Lorsque ça revient de manière incessante, on sait que c'est quelqu'un d'important et qu'on doit avoir un peu d'attention à cet esprit et voir comment on travaille avec lui.
Est-ce que ça peut faire peur ?
Alors, pour ceux qui sont de l'extérieur et qui ne sont pas chamanes ou qui ne comprennent pas ce que c'est l'invisible, ou, etc., oui, ça peut faire peur. En revanche, pour moi qui traite de ces sujets quotidiennement, non, ça ne fait pas peur parce que du coup, je vois le monde tel qu'il est réellement. Et ce n'est plus un monde, on va dire, physique, avec de la matière qu'on peut toucher comme cette table, mais quelque chose vraiment qui fait un va-et-vient entre le monde physique et intangible, le visible et l'invisible, avec un espace quantique et que tout se joue sur les mêmes plans au même moment. Donc ça a l'air un peu... c'est compliqué à appréhender tant qu'on n'est pas dedans, ça je comprends, mais je trouve que la physique quantique apporte un bel éclairage sur ce monde-là.
Et quand les esprits sont venus toquer à ta porte, est-ce que toi t'avais cette vision quantique du monde déjà ?
Non, parce que j'avais une vision très chrétienne, hein, le bien, le mal, le paradis et l'enfer, le Dieu et le diable, voilà, il y a des bonnes choses et des mauvaises choses, donc tout était en dichotomie, tout était en opposition, alors qu'il n'y a pas d'opposition, en fait, dans ce monde-là. Donc c'est venu vraiment petit à petit, et au début, j'avais beaucoup d'esprit, on va dire, si je reprends cette dichotomie bénéfique, et ensuite sont venus des esprits d'un autre genre, et en fait, c'est en quittant justement ces préjugés et ces peurs, qu'on se rend compte qu'ils sont comme tout le monde et qu'en fait, il n'y a pas de bien et de mal. C'est juste d'autres états avec d'autres énergies qui sont un peu plus tough, un peu plus durs, mais avec lesquels il faut conjuguer. Et moi, je trouve ça intéressant. C'est comme au boulot, on a une équipe avec des personnalités différentes. Et voilà, on ne va pas tout le temps se dire « bon, bah, j'aime bien travailler avec cette personne parce qu'elle est plus douce ». Il faut vraiment essayer de conjuguer avec toute son équipe et en tirer une force. C'est ça qui est intéressant. Mais ça vient qu'avec le temps, je trouve. Au début, c'est un peu compliqué.
Céline, est-ce que les esprits nous accompagnent là pendant cette interview?
Tout le temps. Tout le temps. Même si là, je fais moins de cérémonies parce que j'ai un petit move parce que j'ai déménagé. Donc, j'ai quand même la tête dans des choses très cartésiennes, dans un prévisionnel à 5 ans avec voilà, des rendez-vous, je vais pitcher les boîtes. C'est tous les jours, j'ai quand même un petit rappel comme quoi ils sont là.
C'est hyper intéressant que tu nous parles justement de ta profession, de ce que tu fais dans la matière, parce que tu as été initiée, on va en parler tout à l'heure, en Mongolie notamment. Comment tu arrives à gérer les différentes dimensions, celles qui te lient aux esprits et celles qui t'ancrent dans la matière?
Ça passe par un planning. Ça passe par un planning et un calendrier. En gros, il ne faut pas s'éloigner effectivement de l'invisible et des esprits qui restent quand même pour les Mongols et du coup aussi pour moi, parce que depuis le nombre d'années où j'apprends avec eux, on est vraiment nous sur de la spiritualité, de la foi, de la religion. Donc on ne peut pas s'éloigner de cette foi ou cette religion, on ne peut pas la couper. Une fois qu'elle est installée, elle est installée. Donc une fois qu'elle est là, on peut être en train de faire la cuisine ou je ne sais pas quoi, de toute façon... ça revient parce qu'il y a une pensée, une prière, quelque chose qui nous indique que... Ensuite, dans le calendrier mongol, tibétain, il y a des jours lunaires un peu spécifiques et je me force justement à suivre les principes un peu bouryates. Alors les bouryates en Mongolie sont plus dogmatisés que le reste des rites mongols qui sont un peu plus archaïques. Moi, ça me donne de l'hygiène en tout cas. Et donc il y a 3 cérémonies à faire par mois. Même si je n'ai pas le temps de les faire, au moins allumer une bougie, penser à eux, voilà, dire qu'ils sont là. Quand j'ai le temps, j'organise donc des cérémonies publiques où je reçois justement du public. Mais comme j'ai déménagé là, il faut que j'ai déménagé mon lieu de culte aussi. Donc, et je pensais que le lieu de culte, c'était juste mon tambour et mon costume. Mais en fait, c'est 15 cartons parce que j'ai tellement fait de cérémonies. En fait, il y a beaucoup. Je ne peux pas jeter mon lieu. Voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas jeter. Donc, ça m'apporte même une réflexion sur l'ancrage du lieu de culte qui ne doit plus jamais bouger puisque je l'ai fait une fois, je pense que je ne leur ferai pas deux. Donc, il y a tout un ancrage là-dessus. Et voilà, c'est des passes et des ponts entre le quotidien et l'invisible qui sont en fait, somme toute, assez discrètes, mais toujours là. Et puis après, il y a tout ce qu'on appelle les synchronicités. Donc, je vais être à fond dans une semaine, dans des rendez-vous. Et puis d'un coup, je vais me dire, attends, mais c'est pas normal, ça, plus ça, plus ça, plus ça. Dis donc, ok, merci, je suis sur la bonne voie. Vous êtes toujours là, même si je pense pas trop à vous en ce moment, parce que je suis à fond, mais voilà. Donc, tout ça pour dire que l'hygiène, on peut l'avoir, l'ascèse, on peut l'avoir, mais aussi, on peut être confronté à son quotidien classique. Et de toute façon, ça ne s'en va pas du jour au lendemain, ça reste. Donc voilà.
Tu nous parlais des synchronicités. Mm. Céline, est-ce que tu peux nous parler du 27 mai?
Ah oui. Alors ça, c'est rigolo parce que j'en parle dans mon livre. Et je m'en suis rendu compte avec le recul. Parce qu'au début, je n'ai pas du tout vu cette date importante. Et en 2011, 2012, 2013, chaque 27 mai, il m'est arrivé quelque chose. Et c'est vraiment en 2013-2014 où j'ai commencé à me dire, tiens, c'est marrant, c'était la même date l'an dernier. Et attends, est-ce que c'était la même date l'année d'avant? Et oui. Et j'avoue que j'ai commencé à flipper les années qui ont suivi, 2015, 2016, etc., en me disant, attends, je m'enferme le 26 mai, la veille. Et puis, en fait, le fait d'être devenue chamane, et puis d'avoir suivi ce parcours spirituel et d'avoir ouvert les canaux fait que ça devient plus une date fatidique. C'est inscrit et maintenant il se passe plus rien, je suis tranquille. Donc, mais ça a été peut-être j'imagine les esprits qui me titillent, j'en sais rien, peut-être que j'imagine que c'est ça. Je ne pourrais pas l'expliquer autrement.
J'ai feuilleté un ancien Madame Figaro chez ma grand-mère et il y avait un test. Quel chaman êtes-vous ?
Les trucs qui m'irrissent les poils.
Qu'est-ce que t'en penses de ce genre de test ?
Il y a beaucoup à dire, ouais. Il y a... En fait, on aime bien l'appropriation culturelle, donc c'est vraiment se prendre des termes qui viennent d'ailleurs sans vraiment les décortiquer, voir d'où ils viennent, leur contexte, l'environnement dans lequel ils ont évolué, et puis les réintroduire effectivement dans des médias de masse, que ça soit le L, qu'on a vu pas mal tous cet été, il y avait un L qui était sur le chamanisme aussi. Voilà, et ça, on décortique vraiment le chamanisme pour en prendre que ce dont on a besoin. Donc finalement, ça devient un outil, alors que c'est pas un outil, on est plutôt ce que je disais, nous, sur la foi, la religion, la spiritualité. Et à force d'aller piocher trois définitions dans le chamanisme, trois choses dans le bouddhisme, en fait, ça s'appelle du syncrétisme, donc on va aller piocher à droite, à gauche des choses pour se fabriquer une espèce de spiritualité, parce qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on évolue, ici en Occident, on est en perte de sens et de repères, on s'éloigne des religions dogmatisées, on sait qu'il faut revenir sur une quête de sens beaucoup plus profonde et respectueuse de la nature, et c'est là où, et c'est tout le travail que j'essaie d'entreprendre autour de l'animisme, qui est qu'on peut être tous et toutes animistes demain, et pas tous chamanes. Et l'animisme est une réelle ouverture, puisque c'est le fait de croire qu'en chaque chose, les montagnes, les rivières, les arbres, les animaux, tout est animé, tout a une âme. Et si tout a une âme, ça veut dire qu'on est tous sur le même pied d'égalité et qu'on a tous une partie du sacré et qu'on est tous interconnectés. Donc on n'est pas plus méritant qu'un arbre, pas plus... voilà, il y a une notion vraiment de fraternité, d'égalité. Et oui, il y a on s'empare de ces sujets parce qu'on se dit c'est la mode et ça fait vendre, sauf que la réalité derrière, c'est que c'est de l'appropriation culturelle et c'est une forme de néocolonialisme. Les mots sont posés, ils sont un peu durs, mais...
ils sont justes.
Mais voilà, c'est ouais. Ce qui est...
Je suis complètement d'accord.
Et comment on devient chamane ? Parce que je sais que toi, dans ton parcours, ça a pris... C'est comme un enseignement universitaire, 10 ans.
Ça prend longtemps, ouais. Alors, ça dépend effectivement où on se situe dans le monde et dans quelle tribu, communauté et peuple autochtone dans lesquels on s'inscrit avec son environnement. Parce que ce sera, par exemple, les Sireke, qui sont les chamanes en Indonésie, sur une petite île. Ça sera peut-être pas le même enseignement ou la même façon de devenir chamane qu'en Mongolie. Et encore, on ne dit pas chaman du coup en Indonésie, on dit sireke, on va dire curandero en Amérique du Sud, on va, voilà, homme médecin aux États-Unis. Et chaman est vraiment un mot tangouze qui appartient à cette région du monde qui est la Sibérie et le nord de la Mongolie. Et alors pour eux, on devient chaman parce que lorsqu'on fait une cérémonie, les esprits vous désignent en tant que chaman. Donc ils vous le disent clairement. Ils vous disent, cette personne est chaman, elle doit suivre l'enseignement, ses esprits sont en colère, ou en tout cas ses esprits... sont à la porte et veulent travailler, donc vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas dire non. On doit suivre le chemin.
C'est passionnant. Tu sais, quand je t'écoutais, Céline, pour préparer cet entretien, j'avais des relents qui me venaient de mon dogmatisme musulman, qui est du coup... Oh, mais c'est des djinns, en fait. Et du coup, cette personne... est possédée par des esprits. Tu sais, j'avais ça en fond, oui, en toile de fond. Bof. Et j'aimerais savoir, toi, ce que t'en penses, du coup, de ça, en fait. Parce qu'on n'est pas habitué à collaborer avec les esprits.
Alors, moi, j'ai une partie de ma famille aussi, musulmane. Et on va dire une partie qui est convertie au christianisme. Qui sont musulmans, mais maintenant, qui sont chrétiens. Voilà. Et donc, il y a deux mots. Il y a l'enculturation et l'acculturation. Donc, dans ma famille, effectivement, j'ai encore des tantes ou des oncles qui vont avoir ce réflexe de dire que je suis possédée, qu'il y a des djinns, etc. Donc ça, c'est l'acculturation parce qu'on ne sait pas. Et parce qu'on a appris quelque chose où on a été enculturé. C'est-à-dire qu'on a appris, nous, quelque chose où on a baigné dans la culture. Mais c'est des choses qu'on peut retrouver, qu'on a perdu effectivement avec la religion musulmane. Si je tire le fil, par exemple, sur cette région du monde au Maghreb, on a les Gnawa qui sont donc une confrérie qu'on retrouve au Maroc, qui font ce qu'on appelle des lilas, donc ils vont organiser des cérémonies à la tombée du soleil, vraiment au début de la nuit. Ça dure toute la nuit et ça s'arrête quand le soleil réémerge au petit matin. Et en fait, cette confrérie est constituée donc d'un malem. Ce malem est celui qui va l'idée, qui va diriger la musique, parce qu'il y a beaucoup de musiciens. Et ces musiciens vont toute la nuit jouer à chaque heure une musique qui correspond à un djinn, qui correspond à un esprit et qui correspond à une couleur. Et la personne qui vient pour se faire soigner, si à un moment donné elle est on va dire en transe ou possédée, bah c'est là où il faut intervenir. Et la personne qui intervient, c'est une femme, ce qu'on appelle la mokadema. Et on a la même chose avec, en Algérie, avec le pendant des Gnawa, c'est les Diwan. Et on a exactement la même chose. Et c'est des choses qui aujourd'hui sont un peu confidentielles, parce qu'il y a la religion, effectivement. Il y a une espèce d'enculturation, acculturation, voilà, c'est fait. Et tout ce que vous entendez aujourd'hui par les Gnawa, toutes les musiques, eh bien, ils ont changé les paroles. Voilà. Alors, dans les lilas, les malems et les musiciens vont jouer et chanter des musiques pour les esprits. Et lorsque l'on voit qu'il y a un concert de Gnawa à Essaouira, ils ont changé toutes les paroles pour que ça soit les paroles pour le public.
D'accord.
Et on n'appelle pas les esprits. C'est deux choses différentes.
Pour les profanes, quoi. Pour
exactement.
Ceux qui ne sont pas initiés.
C'est
pour
quelque chose. Voilà. C'est deux,
un peu comme
deux
si
choses
c'était
différentes.
Réservé. En fait, c'était tellement sacré que les personnes qui sont en présence doivent être prêtes à recevoir énergétiquement peut-être les esprits.
Oui, ou... et puis il y a tout un. Ouais, c'est ça. Puis il y a le contexte. Et donc, quand ils sont dans un contexte beaucoup plus folklore, c'est la fête parce qu'il y a le festival Essaouira. C'est pas les mêmes paroles. donc oui, après, ça dépend d'où on vient et d'où, comment on a été enculturé, qu'est-ce qu'on a appris par sa communauté. Et voilà. Donc ça demande un pas de côté,
ouais,
d'ouvrir son esprit et de se dire, il n'y a pas que ça. Et finalement, bon, est-ce qu'on a tous raison, tous tort? Qui a raison, qui a tort? Bon, personne. Je pense que le monde est...
C'est un terrain d'exploration. J'aimerais qu'on aborde le thème du rêve.
Ah oui.
Parce que justement, tu as été appelée au travers d'un rêve.
Oui.
Parce qu'on pourrait se demander pourquoi la Mongolie.
Oui. Alors, c'était pas un rêve au début, c'était une vision. Parce que j'étais vraiment allongée, tranquille, en méditation. Mais les rêves sont assez importants chez les chamans. Hein. D'ailleurs, les chamans rêvent pour la communauté, et les rêves qui se diffèrent des rêves qui sont des visions. Et d'ailleurs, c'est des visions parce qu'on dort, mais ça peut être des visions parce qu'on est éveillé, on est en train de conduire, ou alors parce qu'on est en train de méditer. Donc ça reste quand même des visions. Les rêves, ça reste, pour moi, du coup, je les ai catégorisés, ça reste vraiment les rêves « what the fuck ». Ça, c'est vraiment c'est quand l'inconscient est fatigué et on est en train de courir, je sais pas, sur un tapis jaune fluo. Voilà, il y a un truc qui est complètement déconnant. Mais sur les visions, même quand on dort, ça, pas mal de chamans et de communautés font attention à ces visions. Lorsque c'est très important, ça émerge. J'en ai eu encore il n'y a pas si longtemps que ça. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on... Alors, on ne sait pas quoi faire de ce matériel avec une anthropologue qui s'appelle Sophie Glaise. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont rêvé de moi, c'est très bizarre, en situation de cérémonie. Et donc, on a commencé à en baser ses rêves, parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Et donc, avec cette anthropologue, Sophie Glaise, on a remonté qu'il y avait, je ne sais pas, une trentaine de personnes qui avaient rêvé de moi en situation de cérémonie, où je faisais une cérémonie pour eux. Et l'hypothèse qu'on en émet, c'est que c'est une reconnaissance de la communauté, du fait que je sois chamane au sein de cette communauté, de cet environnement occidental. Donc, il y a presque un effet inverse. Donc c'est assez drôle.
J'aime bien la nuance entre le rêve et la vision. Et quand tu l'as dit,
ouais,
j'ai vu
J'ai pu discerner.
Ouais.
Et il y a quelque chose que tu partages aussi, c'est que dans ta lignée, dans ta famille, surtout ta lignée de femmes, vous débriefez souvent vos rêves parce que chacune a une pièce du puzzle et vous en discutez.
Ah oui, c'est étrange ça.
Comment vous procédez ?
Alors, c'est surtout alors, la rêveuse, on va dire, de la bande, c'est ma mère. Ma mère rêve tous les soirs. Tous les soirs, elle a un esprit qu'elle connaît ou pas, des gens qui sont passés de l'autre côté, qui viennent lui parler. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors elle, c'est vraiment... Et il y a des... Parfois, il y a des... Je ne sais pas pourquoi, quand je l'appelle, je lui dis, tiens, c'est très bizarre. J'ai fait un rêve vision. Et en lui racontant, elle complète parce qu'elle aussi. Et ça nous étonne à chaque fois. Et ma sœur, ça va être pareil, avec un peu moins d'importance, mais ça nous est déjà arrivé, ou voire même, je me réveille à 2h du matin pour aucune raison, parce que je dors vraiment à point fermé, et je me dis qu'il faut que je prenne mon téléphone dans la main, et ma sœur m'appelle à ce moment-là. Donc voilà, donc je pense que c'est là aussi où on est toutes connectées, interconnectées, c'est assez intéressant. Et non, le truc qui m'a fait le plus marrer et qui a fait vraiment flipper ma mère, je crois, c'est une fois, j'étais chez elle, donc je dormais, et le matin, elle ouvre la porte de ma chambre et elle me dit, mais quel barouf t'as fait cette nuit ? Je fais, ah bon, j'ai fait quoi ? Je dormais, moi. Elle me dit, mais non, mais pas du tout, mais t'as joué du tambour. Je fais, mais non, en fait. Elle me dit, mais t'es sûre ? Je fais, mais oui, je suis sûre. Et en fait, toute la nuit, elle a entendu le tambour, et ça, c'était une des fois où je rentrais de Mongolie. Donc, on rentre chargé, hein, on rentre avec toute l'équipe, la cavalcade. Et, Donc, ça, c'est drôle. La plus sensible, ouais, c'est de la bande, c'est ma mère.
Est-ce que toi, tu as la capacité, par exemple, à ressentir le potentiel de chaman, par exemple, chez ta mère ? Est-ce que toi, tu penses qu'elle a ça en elle ?
Ma mère, je pense que c'était une sainte avant, dans d'autres vies. Elle est sur son parcours, ma mère a compris énormément de choses sur la quantique en parcourant en long, en large, en travers pendant quasiment 50 ans la Bible.
Ah, ouais.
et elle comprend vraiment les choses entre les lignes et je pense qu'elle se dit que de toute façon, il y a ce qu'elle comprend dans la quantique, etc. En revanche, c'est pas sa culture, le chamanisme mongol. Donc, je pense pas qu'elle irait là. Par exemple, aujourd'hui, il faudrait que j'ai une assistante ou un assistant, il faudrait que ce soit ma mère. Et ma mère refuserait, je pense. Il y aurait ce petit côté, justement, parce qu'il y a d'acculturation, ça lui ferait peur.
Et justement, au travers du rêve, toi, tu as été appelée à aller en Mongolie.
Ouais. Oui, de cette vision de ce jeune homme qui était assez, un visage assez proche de moi et habillé avec un dhil. Donc c'est un costume traditionnel mongol, bleu, avec la coupe rose, assez jeune. Je lui donnais 16, 18 ans. Et j'y suis pas allée tout de suite. C'est ensuite, il y avait des chamans, effectivement, maintenant avec qui je suis très amie. Et ces chamans m'ont dit, mais non, mais en fait, il ne faut pas rigoler avec ça, tu as 2 ans pour y aller. Donc, à partir du moment où on m'a dit, on m'a donné un peu une alarme, on m'a mis une alarme, je me suis dit, il faut que je prenne mon billet d'avion.
Mais toi, au moment où tu vois cette personne dans une vision, tu ne la connais pas ?
Non, je ne la connais pas. Ils m'ont dit, ils me disent, on t'attend, sauf que je n'ai rien fait. J'ai dit, on m'attend. Et puis, comme j'avais eu énormément de visions et que ces visions, je les revoyais dans le quotidien, je me disais, c'est comme ça, le monde est poreux entre le visible et l'invisible. Et j'en avais fait... je m'étais dit, c'est la loi de l'univers. C'est comme ça, c'est comme ça. Je n'avais pas plus creusé que ça. Je ne m'étais pas dit, je vais devenir médium ou il faut que je creuse. Je me disais juste, il y a une porosité. Je n'ai pas envie de comprendre. Elle existe. Je ne pourrais pas essayer de la comprendre vu que personne ne la comprend. Et il faut la vivre, il faut vivre avec. Et c'est les chamans qui m'ont dit que non, c'était très important, qui avaient un petit ton alarmiste.
Ah oui, pourquoi ?
Ouais. Ils m'ont dit non, mais en fait là, il faut vraiment que tu prennes les choses au sérieux. Et c'est peut-être que je prenais pas les choses au sérieux ou à la légère.
Parce que c'est nouveau, enfin pour toi, oui. T'as pas les codes, quoi.
Non, j'ai pas les codes. Je me dis c'est pas ma culture, donc je ne sais pas si c'est important ou pas. Et donc j'ai pris un billet d'avion pour rencontrer ce jeune homme parce que je l'ai retrouvé. En fait, l'histoire, c'est que j'en parle du coup à Shuka, qui tient une agence de voyage qui s'appelle Ecovoyage Mongolie. Et Shuka, à l'époque, elle travaillait avec une réalisatrice qui faisait un documentaire pour la Mongolie pour France 5, Anne-Sylvie. Et Anne-Sylvie me dit, écoute, on parle de tout ça, du voyage à un. Après mon retour de Mongolie, une fois que j'ai posé toutes les images, pas de problème. Et elle poste sur son Facebook une photo de fin de tournage. Et là, je reste un peu scotchée parce que j'étais dans les locaux de TF1 un matin. Et j'ouvre le Facebook et je vois ce jeune homme. Et je fais, mais c'est un truc de ouf. C'est vraiment lui. Et ça me scotche quand même. Hein. Et donc, en fait, en reparlant à Anne-Sylvie et Chouka, elles m'ont dit « Ah, mais oui, il a 18 ans, il s'appelle Shin Bayar, il habite à 2 heures d'Oulan-Bator, il est chaman, et c'est le protagoniste de mon documentaire. » Ok.
Wow.
Et donc, je me suis dit «
Chair de poule. »
Voilà, c'est mon point de départ. Hein.
Ok.
Et donc, j'ai dit à Chouka « Écoute, mon point de départ de l'histoire, c'est on va discuter avec Shin Bayar. » Et donc là, c'est très bizarre, parce que je prends un billet d'avion, et j'ai, je ne sais plus quel âge, mais j'ai une trentaine d'années, et je me dis « Je vais aller discuter avec un gamin de 18 ans. » Et j'habite Paris et je vais lui dire « Hey, salut, je t'ai vu dans ma chambre, voilà, je t'ai vu en vision, ça veut dire quoi ?» Et donc j'ai fait ce voyage, voilà.
C'est fantastique. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup?
Ah, alors ce qui s'est passé, c'est
quand tu l'as eu en face de toi, est-ce que lui avait des éléments de réponse?
Oui, ouais. Alors Chouka déjà a prévu, quand je suis arrivée, Chouka avait prévu une cérémonie qu'on appelle une cérémonie blanche pour protéger le voyage. Parce que j'avais une story, un background tellement chargé, qu'il s'était dit, oh là là, on va pas se la trimballer pendant 2 heures jusqu'à Zunara, qui était...
Dans une de tes interviews, tu dis même, genre, le chat noir, ouais, ça va faillir.
Mais c'est comme ça que je l'ai pris, hein. Je me suis dit, bon, les gars, ils pensent que... Alors que dans notre famille, on porte bonheur. Et c'est vraiment le truc, la particularité de notre lignée. On a ce truc que j'appelle...
La baraka.
Ouais, ou la Midas Touch.
Ce
Midas qui touchait tout et qui se transformait en...
Mais c'est une chanson des années 60, je crois, de Swing on Fire.
Ah, je crois que souvent.
Midas Touch.
Et donc, du coup, je me dis, bon, et tout, bon, ça me plaît pas trop, ce petit chat noir, mais genre miraculous, quoi. Et en fait, je rencontre un vieux chaman qui s'appelle Rang Su, qui va faire cette cérémonie. Et puis qui écoute mon histoire pendant tout le trajet de la bagnole. Je me dis, bon, le mec, il doit en avoir ras-le-bol de m'écouter. Et on passe à la cérémonie, il ne parle pas. Et en sortie de cérémonie, il dit, bon, les esprits ont dit que tu étais chamane de la lignée de ta mère. Et là, ça ne m'étonne qu'à moitié sur la lignée de ma mère. Le reste m'étonne un peu plus. Et je ne sais pas ce que je vais en faire. Et moi, je me vois, je me projette déjà au rayon, à la FNAC, en me disant, oh, je vais prendre des bouquins et on va potasser. Pas du tout, le mec me dit, on va devoir apprendre ensemble. Enfin, il va falloir que tu apprennes en Mongolie. Avec moi, je ne sais pas, mais il va falloir apprendre. Et bon, il se passe tout un truc dans les bois qui fait qu'il accepte finalement de devenir mon prof.
Tu as négocié avec lui, c'est ça?
Alors, on a discuté. Ouais. Il a regardé surtout toute l'astrologie. Il a demandé aux esprits. Mmh. En fait, il voulait vraiment savoir si on allait s'accorder.
Ton CV cosmique.
Voilà. Si on allait s'accorder. Parce que c'est vrai, de transmettre un savoir séculaire par oral... on n'a pas envie que ça soit dévoyé, on n'a pas envie qu'il y ait ce colonialisme, cette appropriation culturelle, on ne va pas le transmettre à n'importe qui.
C'est précieux.
C'est précieux. Il y a autant ce qu'on est en tant qu'humain et ce qu'on est en tant qu'humain sur le plan invisible, donc chaman, ça c'est encore autre chose. Mais je pense qu'il y a l'aspect humain et les valeurs qu'on porte sont importantes dans la transmission élève à prof.
Ouais.
Et Rang Su, que je crois qu'il a eu très peu d'élèves, il en a eu 4 ou 7. Ouais, en 20 ou 30 ans. Donc non, il est assez précautionneux à ce moment-là dans les bois. Et donc après, on se serre la main et on dit, ok, c'est un peu le contrat. Hein. Et on va tous les deux à Zunara, qui est la petite ville où habite Shin Bayar. Et Shin Bayar est un jeune homme qui fait à l'époque beaucoup d'épilepsie. Okay. Il est épileptique et il fait beaucoup de crises d'épilepsie. Et donc, il tombe régulièrement en crise épileptique. Et je rentre dans la maison et je leur dis, mais il y a eu un drame ici. Tu as voulu te planter un couteau dans la carotide, dans le cou. Mm-hmm. Et là, tout le monde se met à pleurer. Et la mère me dit, oui, on s'est battu. Il regarde. Et là, il me montre sa cicatrice justement au cou. Et oui, il y a eu cette scène où il en avait tellement marre d'être épileptique qu'il a voulu se suicider. Mm-hmm. Et derrière, on lui a dit, mais non, en fait, il faut que tu deviennes chaman. Et c'est comme ça qu'il est devenu, d'ailleurs, chaman. Et j'ai voulu... Donc, on a beaucoup discuté avec la maman, surtout. Et avec Schindbayer un peu moins, parce qu'il était timide, hein, 18 ans, voir une Européenne arriver.
Ouais, c'est intimidant.
C'est intimidant. Mais pour eux, ils l'ont vu comme quelque chose. C'était un bon signe, et c'était un signe de chance et de bonheur. Et depuis, c'est vrai qu'il me semblait qu'à l'époque, ils avaient un tout petit peu de difficulté au niveau du travail, etc. Le papa n'était pas là, il était hors pailleur, ce qui est strictement interdit. Dans le chamanisme, on ne peut pas creuser la terre, et donc alors aller chercher de l'or, encore moins. Donc son fils priait énormément pour que ça se passe bien, et c'était tout l'objet du documentaire d'Anne-Sylvie, justement,
ouais.
D'avoir cette dichotomie entre on est obligé de manger, donc être hors pailleur, et de l'autre côté, le fils qui ritualise ouais. beaucoup pour demander pardon.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et depuis, je crois que ça va, parce que même j'en suis sûre, parce que je les ai au moins une fois par an par téléphone, où je les vois, ou parce que parfois la maman, elle arrive à Oulan-Bator et qu'elle est avec Chouka, et Chouka fait l'interprète, et tout va bien.
C'est féerique, en fait. C'est une histoire qui est magique.
Ouais.
Quand toi, tu vis ce moment, cette initiation, que tu es au contact de cette famille, de cette civilisation, de ce pays,
ouais.
Tu as quitté voilà, ta vie, tes standards, tes références.
Ouais.
Comment ça se passe pour toi? Est-ce que t'es guidée, t'es poussée à vivre cette expérience, et du coup le mental, il est plus très, très présent, et tu te laisses porter? Ou est-ce qu'il y a une partie de toi où tu t'observes faire et tu te dis, mais c'est quand même assez fascinant ce qui se passe?
Alors, tout au début, il y avait quand même une partie de moi qui me disait, mais ça, ma fille, qu'est-ce que tu fous là? Tu vas jamais rentrer en transe, c'est n'importe quoi. Moi, j'étais pas du tout sur des sujets de chamanisme, de transe, je savais pas ce que c'était. Donc quand je vois moi mon prof, donc Rangsou, qui commence à faire une cérémonie et qui prend une autre voix, et qu'on me dit oui, il parle en proto-langage, en proto-mongol, et donc il est incorporé. Bon, je juge pas ni rien, mais je reste quand même circonspect, je n'arrive pas trop à capter le truc. Et je me dis, bon, ça va être mon tour, mais et en fait je me suis fait mes chiffonner, mais alors comme il faut.
Et pour t'es rentrée en transe.
Ah, pour la première, oui, très rapidement. Et pour la première transe, je me suis fait, mais vraiment, ouais. C'est comme si on avait pris une poupée de chiffon et on l'avait à gauche, à droite, on l'avait secouée.
Est-ce que, comment ça s'est passé en fait, cette mise en transe? C'était en fait, du coup, la voix qui t'a porté?
Ouais, on n'avait pas de tambour. En fait, on a fait ça, en fait, dans la maison de Rangsouk, où il y a un hôtel. Sans tambour, et donc je me suis assise à côté de lui. Il a juste un autre outil qu'on appelle un hangod, mais où il y a 3-4 clochettes.
Mm-hmm.
Et derrière, je lui dis, mais qu'est-ce que je fais? Il me dit, tu fais tout comme moi. Et donc, premier mouvement de bras droit vers la droite, puis vers la gauche, puis boum, c'est parti. Donc, c'est là où, pareil, quand on me dit on rentre en transe au son du tambour, non. Lorsque je rentre, par exemple, dans le sanctuaire de Ovo de Nketuya, qui est ma deuxième prof, le sanctuaire est tellement chargé et que je travaille désormais avec ces esprits-là, que j'ai pas le temps d'enfiler mon costume, que je suis déjà happée.
Mmh.
Donc, c'est pas un bruit de tambour qui va m'emmener de l'autre côté. C'est vraiment parce que je suis dans une connexion totale. Et alors, pour rejoindre ta question qui est intéressante, c'est qu'au début, effectivement, je suis assez circonspect, je suis assez sur la réserve. Et en fait, plus passent les années et le temps, et plus je suis complètement... je vis les choses de manière immersive au sein de la communauté. Et donc, c'est traire les vaches, les yaks, faire à manger matin, midi et soir avec les femmes pour les hommes, parce que c'est un milieu rural où tout le monde travaille beaucoup et on est obligé de savoir faire la cuisine, changer un moteur de bagnole et sortir un poulain, voilà, en gros, voilà, et chasser. Donc voilà, ça c'est de manière immersive et il n'y a que comme ça qu'on, je trouve qu'on apprend justement à ce contact-là, qu'on apprend tout le chamanisme qui est lié à la vie quotidienne, rythmée aux vies des saisons, rythmée aux vies de la ruralité de la communauté. Et là, c'était bête parce que pendant le confinement, j'aurais voulu en fait rester 6 mois là-bas. Mmh. Et je pense qu'il faut que je passe une année, parce que j'aimerais bien voir une année entière en immersion totale chez eux. Ouais, ce qui serait pas mal. C'est-à-dire l'immersion, c'est changer de camp toutes les saisons, aller chasser, alors on chasse le loup, wow. les ours, fabriquer les tambours, voilà. Là, il y a une vraie immersion dans la culture et le quotidien des Mongols. Et les cérémonies, ça vient après. C'est vraiment cherry on the cake, j'ai presque envie de dire. Ouais.
C'est déjà le fait d'être connecté à ces personnes, à cette terre.
On discute beaucoup le soir, ouais. C'est ça, surtout. C'est le soir, vers la tombée de la nuit, on prend le thé, le tsutse, le thé au lait. Il y a beaucoup de discussions, de choses qui se sont passées dans des cérémonies d'avant. Et puis, des choses plus terre à terre. Hein, les enfants qui sont à l'école et scolarisés dans la ville à côté, comment ça se passe. Ou s'il y en a un qui a un point de côté, j'en sais rien. Voilà, ça reste beaucoup plus... c'est très familial et très drôle.
Et le fait d'être chamane au sein de ce peuple, est-ce que ça t'apporte du coup une autorité? En fait, est-ce que les gens viennent te voir pour des conseils, pour des soins, pour des lectures, c'est ça? Comment ça se passe concrètement?
Alors, avec Rang Suk, oui, il y avait des gens, des Mongols qui voulaient me voir pour justement des cérémonies. Avec Nketuya, c'est quand même un personnage... Là, de ce que j'ai vu au mois de mai, quand j'y suis allée, c'est presque un esprit vivant, une déité vivante. Donc, se dire qu'on peut toucher l'invisible dans la matière, parce que finalement, c'est ça. C'est assez fou. Et donc, les gens viennent voir quand même Nketuya. Ils viennent moins. Même si, lorsqu'on fait tous des cérémonies, tous en même temps, on peut être une dizaine de chamans. Il y a une queue vraiment énorme pour aller voir Nketuya. Nous, on est là pour apprendre. Et puis, il n'y a pas de course à avoir, des gens qui viennent nous voir ou pas. Mais on s'entraîne entre nous. Mmh. Donc ça veut dire que moi, si j'ai fini une cérémonie plus tôt, ou une transe, ou je sors d'incorporation, parce qu'on parle plutôt d'incorporation, je sors de mon incorporation plus tôt, et que j'ai besoin d'une confirmation, et que Nketuya, de toute façon, est occupée avec d'autres personnes, par entraînement, je vais aller voir d'autres chamans de la communauté, et on s'entraîne, et... Ce qui fait aussi entraîner leurs touchis, leurs assistants, qui sont leur mari ou leur femme. Donc et pareil, ils m'apprennent parce qu'ils me disent comment placer les choses. Ils m'aident, ils peuvent toucher mes affaires, donc ils m'aident à ranger. Donc c'est pas que Nketuya qui m'apprend, c'est vraiment le clan. Une fois qu'on est dans ce clan, on est en équipe. Mmh.
Mmh. C'est tellement aux antipodes de ce qu'on a, nous, ici, en France, en Europe.
Très individuel,
ouais. Mmh. Comment, d'après toi... Il serait possible, de prendre ces influences un peu claniques, spirituelles, bienveillantes. Comment on peut distiller en Europe, dans les grandes villes européennes, ces modes de pensée?
Ouais. Alors, il y a plein de choses qui se font, mais il y a des gens qui ont envie de recréer des communautés. Ça, j'en croise beaucoup en France, qui veulent recréer des communautés, acheter des hameaux complètement... mort et recréer la communauté autour. Et puis de se dire, dans ce hameau, il y a quelqu'un qui va gérer le bétail, quelqu'un qui va gérer les fruits et légumes, et pourquoi pas quelqu'un qui va gérer le spirituel. Ça, c'est une façon de faire. Ensuite, dans les grandes villes, je pense qu'il y a des points de passe, comme dans les églises, où c'est rythmé, par exemple, le dimanche, c'est la messe, où c'est le point de rencontre, justement, des communautés chrétiennes. Il faudrait avoir un point de passe où, 3 fois par mois, il y ait ce lieu de culte, justement, cette yourte cultuelle en plein Paris. Et ça serait un rêve. Si Madame Hidalgo écoute ce podcast,
ce serait super.
Et qu'on donne des rendez-vous pour des services cultuels dans le calendrier. Et c'est ça qui rassemble. Parce que on vient pour ce service culturel, mais en même temps, ça veut dire qu'on rencontre d'autres personnes qui vont avoir la même vision de la vie que nous, et puis bah, s'organise une vie en dehors du cultuel, mm-hmm. où les gens se voient à l'extérieur, etc., etc. Donc c'est ça qu'il faudrait, j'imagine, faire. J'en sais rien, il y a plein d'autres... Après, il y a des gens qui organisent des marches dans les bois.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'on est assez déconnecté ici, c'est compliqué, ouais.
Puis il y a toujours cette peur du jugement des autres. Ouais. Il y a aussi cette espèce de couperet où j'ai l'impression que tout est très cadré et que très souvent, tu vois, tu peux trouver ce label dérive sectaire sur des choses un peu, tu vois.
Et oui, il faut faire attention, en fait, comment on manipule les mots et ce qu'on en fait. Et c'est pour ça aussi que sur le chamanisme, quand je suis rentrée, je fais beaucoup d'allers-retours, mais... Quand je suis en France et que je réfléchis sur ça, pour moi, il ne faut pas réfléchir sur le chamanisme, mais plutôt sur l'animisme. Parce que le chamanisme est galvaudé, justement, à cause de pas mal d'appropriations culturelles, de néocolonialisme et par les médias, qui fait que ça éveille la curiosité ou ça éveille, justement, des points de sécurité au sein de la Miviludes. Et ils ont raison, parce que... On peut très bien, à un moment donné, tomber sur des gens qui utilisent le chamanisme pour utiliser la vulnérabilité de la personne qui est en face.
Pour le contrôle.
Pour le contrôle, etc. Parce que là, l'utilité, vraiment, je trouve, doit être portée plutôt sur l'animisme. Et sur l'animisme, c'est comment on calibre un discours dans un pays laïque. Là, moi, en tout cas, ce que j'aimerais faire, c'est que l'animisme, donc aujourd'hui, moi, je l'ai mis juridiquement sous une forme d'association, donc c'est l'ACA, l'Association des cultures animistes. J'aimerais que l'ACA participe justement à un master en 2 ans à l'IREL, qui est l'Institut. Alors avant, ça s'appelait l'IESR, l'Institut européen des sciences des religions. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est l'IREL, c'est l'Institut des religions et de la laïcité. Je crois que c'est ça. Mais ils ont raison, parce que c'est... lorsqu'on a une association comme l'ACA, il faut recontextualiser dans le pays dans lequel on évolue. On est dans un pays laïque, donc on ne peut pas faire sans ce cadre-là. Mm. Ça serait presque même irrespectueux de faire ce qu'on veut. Et derrière, il faut faire aussi attention aux mots qu'on utilise pour éviter le prosélytisme. Sinon, on se retrouve avec des speeches au Stade de France dans 2 ans. Allez les gars, venez rejoindre l'ACA. Non, mais je déconne, mais il faut vraiment faire attention aux mots qu'on utilise. Et c'était assez important pour moi de se dire qu'en fait, on était sur un service cultuel et pas un service commercial. J'ai pas de cabinet, je fais ça dans la nature ou prochainement dans une yourte... culturel qui aura que cette destination là et les services culturels ils sont sur don, voilà. Donc on est vraiment il faut faire attention aux mots qu'on utilise, parce que c'est vrai et aussi les écouter. Alors il y a une profonde écoute à avoir, c'est écouter les gens qui viennent nous voir pour démêler le spi du psy. Je m'occupe pas du psy, donc du psychologique, mais du spirituel. Si je fais les deux et je mélange les deux, c'est là où je fais un pas de côté et du coup je me dilue dans vraiment ma fonction principale.
C'est hyper intéressant. Quand je t'écoute parler de chamanisme, quand je te vois, quand je regarde tes interviews, il y a une autorité, il y a du courage, et j'aimerais te demander, est-ce qu'il faut être badass pour être chaman ?
Ouais, j'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui, parce que c'est une conversation que j'ai eue avec un de mes élèves et qui est passé par un petit moment un peu touchy, et je lui ai dit, mais t'es chaman, donc il y a un moment donné où il y a une affirmation. Et puis il y a aussi tout le contexte, encore une fois, culturel mongol, où les Mongols, c'est des têtes dures, ils sont têtus. Ils y vont. Moi, quand des fois j'ai des cérémonies où je dis oh là là, je sais pas trop, on me fait une énorme tape dans le dos et on me dit ma pote, tu vas y aller quoi, y a pas moyen. Donc voilà, il faut quand même être quelque part un guerrier, porter les choses, et du coup les choses qu'on porte dans l'invisible, bah ça demande du courage pour les porter dans le visible, et ça demande du courage de le porter dans un monde occidental où ça peut ne pas être bien reçu, parce qu'il y a une acculturation, c'est pas notre culture, on voit ça d'un mauvais œil, parce qu'encore une fois, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de littérature qui ont dévoyé le chamanisme et qui ont fait du New Age maintenant et du syncrétisme. Donc voilà, il y a une hygiène un peu à faire et après voilà, ça m'a demandé aussi pas mal de courage, mais aussi d'apprentissage, parce que au-delà de l'apprentissage en Mongolie, j'ai suivi des cours du soir à l'IREL. Mm-hmm. Et d'ailleurs, les cours du soir recommencent. Là, on peut s'inscrire à l'ensemble des cours du soir jusqu'à l'an prochain, ou à des cours du soir sur des thématiques qui nous sont chères. Donc ça, c'est encore quelque chose que je vais refaire. Ouais, il y a des super... Renaud Rochette, avec qui on travaille justement les faits religieux dans les films, et professeur là-bas. Il y a ça, et puis il y a toutes les conversations que j'ai eues aussi avec des moines qui sont dans des institutions dogmatisées mais sérieuses, parce que ces sujets-là sont discutés depuis des années et des années et des années. Donc voilà, pour moi c'est un vrai lieu d'apprentissage aussi, sur savoir comment ils sont organisés, tant sur le plan de la communauté qu'en tant juridique, que sur le plan de trésorerie, enfin voilà, tout ça c'est de l'hygiène aussi. Et toujours pour quel but. Donc voilà, c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, je me sens solide pour pouvoir prendre la parole, ce qui n'était pas le cas il y a 3 ans, parce que sinon, j'aurais fait du New Age et j'aurais dit « Ah tiens, je sens quelque chose » et j'aurais pas su expliquer ce que je sens.
Il y a quelque chose qui m'amuse beaucoup, Céline, c'est que là, on fait cette interview, on est dans la tour TF1.
Ouais.
Et on parle de spiritualité, de chamanisme.
Mais ils sont hyper ouverts ici.
Ah, ouais. Intéressant.
Ouais. C'est très intéressant parce que c'est une maison que je connais bien maintenant depuis 10 ans. C'est une maison avec laquelle j'ai beaucoup d'affinités et les collaborateurs sont très ouverts. Sont sensibles à beaucoup de sujets, alors tant RSE que spirituel, etc. On retrouve beaucoup de personnes qui sont très connectées et ça va pas rejaillir forcément sur les programmes, etc. Parce que TF1 reste un média, le média numéro 1. Mais c'est assez marrant parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de collaborateurs sont très sensibles à tout ça au sein de cette maison. Et c'est ça aussi pourquoi peut-être ça fait 10 ans que je travaille inside, outside avec eux, et c'est hyper agréable.
C'est marrant ce que tu dis, parce que moi je trouve justement que les grands broadcasters de divertissement, d'information, maîtrisent justement l'invisible, l'émotionnel, les fréquences, les vibrations. Je pense que justement ce qui est intéressant, c'est d'être là, d'aborder un sujet, en fait, de mettre des mots sur quelque chose qui est déjà là, tu vois. Moi, j'ai travaillé longtemps à côté, à Radio France, et c'est des ondes, tu vois, c'est des fréquences, c'est de l'information, tu vois, sous forme d'ondes, et c'est de l'information directe. On touche, en fait, au travers d'une information, voilà, tu touches l'émotionnel, et l'onde de forme change, tu vois, chez la personne. Donc, c'est un pouvoir d'influence. Et c'est de la magie aussi, tu vois. Donc, c'est du coup, ça ne m'étonne pas qu'il soit réceptif et au courant de tout ça. Ouais. J'aimerais que l'on parle de ta marque de Beau.
Beau, oui, il y a un petit misfit, c'est vrai, sur la prononciation. Et même là, on se dit, la culture mainstream américaine fait qu'on a tout de suite envie de dire Bou, parce qu'il y a deux O, mais c'est deux O tréma. Et c'est un mot mongol qui veut dire chaman et qui se prononce Bo. Et cette marque, je suis en pleine levée de fond. C'est pour ça que j'ai des cernes, vous ne le voyez pas. Mais je démarre cette levée de fond. Donc c'est en travaillant sur le sujet de l'animisme qui est surtout sur une... on va dire une problématique qui était de se dire que les cultures animistes, donc les peuples autochtones, sont à la pointe des enjeux d'aujourd'hui. Et pourquoi on ne s'inspire pas de tout ça? Je ne suis pas la seule à dire qu'on devrait s'inspirer de tout ça. Mais je me suis dit, c'est bien les yaka faucons, il faut faire. Moi, j'aime bien, je dis ce que je fais ce que je dis, j'aime bien...
Shaman badass.
Voilà, doer, maker.
Talk the talk and walk the walk.
Voilà. Et sur une des verticales que je développais, qui était... ils sont à la pointe des enjeux d'aujourd'hui d'un point de vue juridique, d'un point de vue environnemental, l'architecture, l'éducation, l'alimentation et le sanitaire. Et surtout l'aspect santé, effectivement, et l'OMS le dit, il faudrait qu'on soit plus sur le préventif que sur le curatif. Et le préventif, c'est la médecine traditionnelle à base de plantes médicinales. Donc en étudiant un peu ce marché, j'ai lancé en novembre ce qu'on appelle un POC, donc un Proof of Concept. Donc j'ai vraiment lancé 5 premiers produits pour voir comment se comportait le marché, de 3 compléments alimentaires à base de plantes, échinacée, maca et curcuma, et 2 huiles essentielles, ravintsara et eucalyptus. La particularité, et vraiment la proposition de valeur qui diffère, c'est que, un, mes plantes, elles sont ritualisées. Mmh. Donc je les ai ritualisées.
Wow.
Voilà. Donc aujourd'hui, il y a 2 types de façons dont on peut ritualiser. Soit je ritualise directement au laboratoire, parce qu'ils ont des grands sacs voilà, qui reçoivent des distributeurs de plantes. Voilà. Et je vais ritualiser ces sacs de plantes avant qu'ils partent justement sur les chaînes de production. Soit, et là c'est ce que j'essaie de faire remonter, je remonte la chaîne de distribution et donc de remonter sur toute la partie équitable, de travailler avec les communautés et faire en sorte que dans les communautés, j'arrive à détecter un tradit praticien, un chaman, un curandero qui lui va ritualiser avant la coupe. Donc là, c'est un petit travail qui me demande un peu plus de longueur parce que déjà, c'est une industrie où personne fait de l'équitable, des compléments alimentaires. Et puis, ça me demande de travailler après et de détecter surtout voilà, ce tradit praticien ou ce curandero et de le faire justement bosser sur ce sujet. Donc ça, les produits sont ritualisés. Pour acter le fait qu'il soit ritualisé, j'ai dû déposer une marque collective de ritualisation animiste, comme le halal ou le kasher. Donc une marque, comme elle est collective, elle ne m'appartient pas, elle appartient à l'association. Donc là aussi, c'est une hygiène juridique et donc une hygiène et une éthique qu'on a avec soi. Donc cette marque derrière pourra être utilisée, par exemple, si demain l'ONF coupe des arbres et ont envie de ritualiser, et ça je l'ai fait moi avec un maître charpentier japonais.
Ouais.
Si vraiment on a besoin, parce que par nécessité, on sait qu'il y a des arbres qu'on est obligé d'abattre, sinon ça donne des maladies à la forêt. Il y a parfois des coupes qui sont nécessaires. Au lieu de couper n'importe comment, on vient ritualiser. Mmh. Donc ça, l'ONF demain, si vous m'écoutez, pourrait apposer ce label et
Organisme national des forêts
là pourrait demander l'aide du label Anima. Et l'autre chose, donc, c'est que il y a ça et il y a tout un sujet aussi sur justement lorsqu'on est une marque, on crée du contenu. Et le contenu qu'on crée, donc il est diffusé, on devient une marque un peu média, comme le fait Patagonia, parce que c'est plus des articles qu'ils postent, mais c'est vraiment des histoires,
oui.
Comme le fait Red Bull, etc. Donc ça, c'est un vrai point de réflexion en ce moment que j'ai avec Maëlys, justement, avec qui je collabore sur cette partie-là. Et je pense que lorsqu'on va justement diffuser des articles et qui sont des histoires avec parfois qui contiennent parfois justement des savoirs,
mm-hmm.
Et comme je veux vraiment avoir l'hygiène jusqu'au bout, ça sera des articles payants, ça sera du paid. Alors peut-être pas grand chose hein, pour débloquer un article, c'est peut-être 50 centimes, mm-hmm. 90 centimes, mais ces 90 centimes sont reversés justement à cette association qui sauvegarde les savoirs ancestraux. Et pourquoi on sauvegarde les savoirs ancestraux? Tu vas voir que la boucle est bouclée. C'est parce qu'on sait que ceux qui sont détenteurs de ces savoirs représentent 5% de la population mondiale et préservent 85% de la biodiversité.
Mmh.
Donc si on ne sauvegarde pas en fait, ces peuples autochtones animistes, on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis.
Absolument.
Et on ne peut pas juste se dire « je suis une entreprise et je vais faire du greenwashing et je vais planter des arbres et c'est super ». Il faut avoir une vraie réflexion. À chaque fois, on me dit « oui, c'est gros ce que tu es en train de faire », mais non, en fait, il faut l'hygiène, elle va se faire sur chaque point de passe. Oui.
La conscience est globale.
C'est global. Alors au début, ça a l'air gros parce que j'ai tout lancé. Mais après, j'ai eu un peu de temps. Il y a eu le confinement, donc voilà. Et après, pour que vraiment, je finis là-dessus, pour que ça soit vraiment bouclé, parce que je suis une doueur jusqu'au bout, c'est de se dire, OK, je sauvegarde les savoirs ancestraux. Mais comment? Qu'est-ce que je fais? Et donc, j'ai bossé avec une start-up qui s'appelle Hippocamp, qui à la base a développé à une techno pour protéger de manière la propriété intellectuelle des idées. Donc on a des idées parce qu'on est une agence de pub et qu'on est en compète, bah, on va déposer et c'est valable devant une juridiction pour se défendre. Et je lui ai dit, donc à Julien Brosse qui dirige cette start-up, je lui ai dit viens on détourne le truc et on l'utilise pour les savoirs ancestraux et on les dépose et comme ça ils reçoivent un certificat blockchainisé, eurodaté et ils pourront prouver voilà. Wow. Devant une cour de justice, et généralement c'est devant l'OMPI, l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, parce qu'il y a un vrai sujet de propriété intellectuelle chez les autochtones qu'on n'a pas ici, mais qui
ça fait sens, bien sûr.
Il y a beaucoup, ouais, en Australie avec les Maoris, il y en a beaucoup, parce que c'est des peuples en Australie ou au Canada qui dealent énormément avec le commerce international et qui ont ces problématiques d'IP. Et là-dessus, bah, c'est en cours, ça va sortir, voilà. Donc c'est toute l'hygiène de sortir un produit, oui, and so what. Et c'est comment j'arrive justement à être d'équerre sur le protocole de Nagoya, qui dit qu'il faut rétribuer de manière juste l'utilisation des ressources naturelles. Comment j'arrive à faire ma part pour la planète, mais en se disant, bah, y a pas, la planète vraiment est protégée par ces 5%, donc comment j'arrive, voilà, etc., etc. Et donc en fait, quand on déroule la pelote, et on est obligé, aujourd'hui, je trouve que lorsqu'on lance un business, on est obligé d'avoir une hygiène sur chaque point de passe de son business et de le maîtriser au regard de la protection de la planète et de ses habitants.
C'est génial parce que voilà, l'idée de cette saison, c'est de faire parler les créateurs et de scanner d'où vient leur inspiration, leur vision. Et là, pour le coup, j'aime beaucoup cette approche-là parce que c'est finalement la chamane en toi qui, du coup, développe un business, un produit aligné, éthique, qui a du sens. Et c'est magique parce que c'est un casse-tête, en fait. C'est un vrai casse-tête sur le plan... Parce qu'on a tendance à diaboliser le capitalisme, et en réalité, c'est un modèle.
C'est un modèle.
Il est ce qu'on en fait.
Et il est ce qu'on en fait, et il est là. Et je ne veux pas le casser, mais c'est comment l'utiliser, justement.
À bon escient.
Et là, à bon escient, c'est comment je vais utiliser, justement, la tech. Parce que j'utilise la blockchain à mon avantage et à l'avantage de la planète. Comment je vais utiliser les jurisprudences ou tout le savoir autour, justement, du droit, IP, donc Intellectual Properties, sur les autochtones. Voilà. Et c'est tout ça, c'est de se dire, voilà, il y a des choses, et puis il y a des conventions, des choses qui ont été signées avec plein d'États dans le monde, et c'est de se dire comment je fais pour que j'ai une hygiène sur un produit qui est vendu sur Amazon, sur Shopify, chez Greenwiz, et je l'espère en dur et en physique dans les parapharmacies. Et comment je fais, voilà.
Et dans ce processus de création, est-ce que tu sens que tu es guidée, accompagnée par les esprits ?
Oui, je suis guidée, accompagnée. Il y a beaucoup de gens qui m'ont rejoint autour du sujet et qui m'aident aujourd'hui. J'ai réussi à fédérer une équipe aujourd'hui qui bosse sur le sujet. Et j'espère un jour, voilà, lever des fonds et que ça devienne une équipe en dur. Donc ça, j'ai compté la dernière fois, on était 10. Je suis pas toute seule. Enfin, je dis, ouais, je suis toute seule. Et en fait, non, on est une dizaine. Donc ça, c'est canonissime. Et voilà, après, là où peut-être ça pêche, c'est je manque d'un associé. Parce que c'est apporter tout ça, c'est fatigant.
Ouais. Mais t'es pas toute seule.
Mais je suis pas toute seule, non. Il y a une dizaine de personnes autour du sujet qui va de DA à pigiste, journaliste, attaché de presse, etc. Avec des conversations qui s'ouvrent dans des institutions qui sont quand même assez... voilà, qui étaient fermées pour moi et qui sont importantes, et finalement ça s'ouvre, donc non, c'est intéressant.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Qu'est-ce que tu demandes, toi, quand tu es en conversation avec tes esprits ?
Ah, beaucoup de choses, mais généralement, j'ai toujours la même chose, là en ce moment, c'est de me faire rencontrer les bonnes personnes. Ça, c'est important, de ne pas perdre son temps avec des gens qui pourraient nous faire détourner de notre route et du but et de l'objectif principal. Donc, c'est vraiment de nous faire rencontrer les bonnes personnes. J'ai toujours la même prière qui est « mets sur mon chemin ce qui doit être mis et enlève de mon chemin ce qui doit être enlevé ». Donc, ça a un double sens, parce qu'on peut aussi mettre sur mon chemin des choses que je dois vivre et qui ne sont pas agréables. Mais en tout cas, si je dois les vivre, c'est que ça a un sens.
C'est le deal, on accepte.
C'est le deal. Et l'autre chose que je demande, c'est très mercantile et en même temps, ça ne l'est pas. C'est que tous ces projets trouve des financements pour sauver la Terre. Et à chaque fois que je demande quelque chose d'assez mercantile, je rappelle à mes esprits, je fais n'oubliez pas les gars, derrière il y a les peuples autochtones, il y a la planète, il y a les arbres, il y a les montagnes,
vivant.
Le vivant. Et ça a l'air d'être assez décorréler la finance de ça, mais en même temps, je suis persuadée que les business qu'on doit créer demain doivent forcément être pourvoyeurs de choses totalement positives pour la planète, parce qu'on le dit tout le temps, imaginez si les milliardaires donnaient leur fortune, on sauverait la planète. Je ne suis pas milliardaire, je souhaite que les projets soient millionnaires, mais justement pour sauver la planète. Et on l'a vu avec le président de Patagonia qui a cédé l'entièreté de son entreprise à la nature.
Oui.
Donc on est dans le bon chemin.
Merci Céline.
Non, merci Amel
pour cette belle transmission.
Merci de m'avoir donné ce temps de parole.
Merci pour nous donner encore cette possibilité de rêver à de la création bénéfique pour tous, pour la Terre, pour l'humain, pour toutes les âmes. Merci Céline.
Je te remercie pour ton écoute attentive. C'est la fin de cet épisode 53 avec mon invitée Céline D'Artagnan. Son livre, c'est « Dans le noir, on voit mieux, les épreuves d'une chamane » aux éditions Mama. Si tu as envie d'en savoir plus concernant Boho, c'est B-O-Tréma, ses produits de santé bio ritualisés et rétribué. Tu pourras trouver les informations sur son site internet celinedartagnan.com/boho. Voilà, c'est tout pour cette saison 2022 de ton podcast initiatique Spiritualista. Je te remercie pour ta fidélité, pour ta gentillesse, pour ta bienveillance, pour ton écoute. Là, je vais réaliser la trêve hivernale de Spiritualista. Tu le sais, ça fait déjà 3 saisons que c'est comme ça. Et on se retrouvera le dernier mercredi du mois de janvier pour reprendre cette 3e saison de Spiritualista et entamer la saison 2023. Je te souhaite de parfaitement terminer l'année et de la commencer encore mieux. À très bientôt.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.